Vincent Leclerc travaille au ressort depuis 20 ans. Elle est depuis 2008 responsable du service d'accompagnement ainsi que du service de logement supervisé. Elle travaille également quelques heures par semaine au centre ressources lésions cérébrales. Benoît Landruen travaille au ressort depuis 3 ans. Il est assistant social à mi-temps au service d'accompagnement et éducateur à mi-temps au service de logement supervisé. Ils vont vous présenter leur expérience, encore assez récente, de mise en place d'un logement social communautaire avec des adultes cérébro-lésés. Vous avez compris, c'est un peu le lien belge par rapport à ce matin. Merci.
Merci. Donc voilà, bonjour à tous. Avant de vous présenter le projet d'habitat communautaire, je vais d'abord vous présenter brièvement le service dans lequel il s'inscrit. Alors, c'est un projet qui s'inscrit dans le cadre du service d'accompagnement. Alors, le service d'accompagnement accueille des personnes qui ont entre 18 et 65 ans, qui gardent des séquelles graves et invalidantes consécutives à une lésion cérébrale acquise. En tant que service spécifique, on est habilité à intervenir sur tout le territoire de la région wallonne. Alors, pour vous donner un peu, notre équipe elle est composée de 6 équivalents temps plein. Et pour vous donner un petit peu une idée, au 31 décembre 2017, on avait 67 accompagnements en cours, une moyenne d'âge de 45 ans. 62% des personnes accompagnées sont des hommes. Au niveau de l'étiologie, on a 46% de personnes d'adultes traumatisés crâniens, 35% de séquelles d'AVC, 13% de séquelles d'anoxie et 6% de séquelles de tumeurs. Et durant l'année 2017, on a eu 20 entrées et 12 départs. Alors, les missions du service sont de mettre en place et d'accompagner des projets d'insertion, de soutenir et d'aider les familles, de servir de médiateur entre les personnes cérébro-lésées et un environnement qui ne possède pas les repères nécessaires pour appréhender la situation. C'est aussi sensibiliser d'autres intervenants à ce type de problématique. Alors nos missions touchent à différents domaines qui vont du logement au transport, à l'adaptation, en passant par le bénévolat, par l'emploi, par la gestion budgétaire, par tout ce qui concerne les droits et obligations, l'hygiène, la santé, l'information, la sensibilisation, la gestion ménagère, les logements, les loisirs, les partenaires réseau et le soutien relationnel et tout ça en collaboration avec le réseau social, médical et culturel ordinaire. Alors, on a à peu près 3 types d'interventions. Alors, soit on est un soutien ponctuel, c'est-à-dire qu'on peut intervenir chez des personnes qui ont un profil séquellaire relativement modéré, qui ont encore de bonnes capacités d'autonomie. On les voit entre une fois par semaine, une fois par mois, voire une fois tous les 2 mois, le temps de remettre avec eux en place un projet d'insertion qui soit professionnel ou plutôt du type de bénévolat. On peut aussi être une ressource alors pour des situations qui se situent loin de là où on a notre base, c'est-à-dire à Gembloux. Et alors là, on intervient plus comme service de deuxième ligne pour seconder des services plus généralistes par rapport à des problématiques liées à la lésion cérébrale. Ou alors, on peut apporter un accompagnement de proximité pour des personnes qui sont plus dépendantes sur le plan cognitif et qui ont besoin d'une intervention individuelle, parfois quotidienne. Alors, on va en venir au fait. Le projet d'habitat communautaire, on voit la photo, là, s'appelle l'Aquarelle. Elle était baptisée ainsi par les différents partenaires lors de l'inauguration. Alors, je vais vous refaire un petit peu l'historique du projet. Donc en 2010, le gouvernement wallon a lancé un appel à projet pour la construction d'un logement social original, communautaire et durable, qui serait destiné à 5 jeunes, travailleurs ou personnes isolées, dans un esprit communautaire et intergénérationnel. Et une de ces personnes devait être une personne à mobilité réduite. Alors quand la présidente du comité des consultatifs des locataires et des propriétaires a vu passer cet appel à projet, elle a proposé à l'immobilière publique du Brabant wallon de le rentrer, de saisir l'opportunité, en lui spécifiant que dans le quartier du Boulois, au Tigny, il y avait un terrain qui était vague et qui pouvait tout à fait servir de terrain pour construire un projet de bâtiment. Alors l'IPB a remporté a reçu un budget et Dès le début 2011, alors ils ont commencé à s'entourer de partenaires. Les différents partenaires, bon, on a la Société Wallonne du Logement, le Comité Consultatif des Locataires et des Propriétaires, Habitat et Participation, qui est un peu le pendant de Famille Solidaire sur Strasbourg, et qui est vraiment une expertise en termes par rapport à tout ce qui concerne les habitats groupés et partagés communautaires. Et puis, ils ont fait appel à nous. Et alors, le projet a pu commencer. Mais d'abord, les premiers écueils qu'on a rencontrés, c'était de devoir sortir des règles d'attribution habituelles du logement social. Parce qu'en matière de logement social, il y a des listes d'attente et la personne qui se trouve au premier niveau sur la liste d'attente se voit attribuer un logement. Or, dans ce type de logement, on se voyait mal fonctionner avec la première personne qui est sur la liste qui rentre dans ce type de projet. Enfin, il faut avoir quand même il a une autre dimension que simplement être un logement. Donc il a fallu travailler avec la région Wallonne pour modifier ces règles d'attribution, ce qui n'a pas été une mince affaire. Ensuite, il a fallu veiller aussi à ce que chaque locataire puisse avoir son adresse propre, parce qu'en Belgique, quand les gens vivent ensemble dans une cohabitation, il y a un cumul des revenus qui se fait, et donc il y a un grand risque pour elles de perdre une partie de leurs revenus, et qui sont déjà relativement précaires, et donc d'augmenter cette précarité. Et ensuite, ce qui n'était pas rien non plus, il a fallu tripler le budget de base, parce que même si l'enveloppe reçue était déjà conséquente, elle était absolument insuffisante pour pouvoir monter ce projet. Alors, je fais un grand saut dans le temps. Donc 2011-2015, c'est le temps de dépasser un peu tous ces écueils. Et fin 2015, début 2016, donc l'Immobilier Public organise des séances d'information. Et elle avait envoyé un courrier à tous les candidats locataires potentiels qui répondaient éventuellement aux critères de cet habitat partagé. Il a ensuite été demandé aux candidats potentiels d'appeler l'IPB ou d'envoyer une demande de candidature pour éventuellement être sélectionné. Et ensuite, en février 2015, alors à ce moment-là, avec Habitat et Participation, avec l'Immobilier Public et le Ressort, on a organisé des entretiens, on en a fait à peu près 80, avec les personnes qui s'étaient inscrites comme candidats potentiels pour vivre dans ce logement. L'idée, c'était de sélectionner 3 groupes de 5 candidats en se disant qu'on ne savait pas encore à ce moment-là quand la construction allait démarrer et que, vu le temps qui pouvait se passer entre le moment de la constitution des groupes et le démarrage de la construction, il y en a peut-être qui auraient décidé de changer d'avis. Alors, en juin 2016, donc c'était un peu plus vite à ce moment-là, la construction commence et également l'accompagnement du groupe de premiers candidats locataires. Et en décembre 2016, là c'était un petit peu la surprise parce que sur les 15 candidats potentiels, il nous reste en fait plus que 5 personnes, dont les 3 personnes cérébro-lésées et 2 personnes qui semblent venir avec des problèmes plutôt de santé mentale. Et après une ultime rencontre avec ces 5 locataires, les 2 personnes qui avaient plutôt des problèmes de santé mentale se sont retirés, se sont désistés du projet. Et donc à ce moment-là, soutenu par le comité d'attribution des logements sociaux, le projet a complètement été réorienté vers 5 personnes cérébro-lésées. Donc il a pris vraiment une dimension tout à fait autre que ce qui était prévu au départ. Donc voilà, ensuite fin mai 2017, alors là, les colocataires emménagent. Donc on peut dire que ce projet est innovant dans le sens où il est destiné à un public pour lequel il n'y a pas vraiment de solution d'hébergement adaptée aujourd'hui. Que dans le cas présent, il permet à 3 personnes sur les 5 de pouvoir vivre en milieu ouvert alors qu'elles vivaient en maison de repos et de soins. Mais ça, je vais plutôt laisser une des personnes qui avait été interviewée lors de l'inauguration vous l'expliquer, elle fait ça très bien.
Je suis comédienne, donc j'ai un statut d'artiste. Et comme nous sommes 3 enfants encore, mais comme nous avons perdu nos parents à la même année, il n'existe aucune structure d'hébergement pour les adultes cérébro-lésés. Et donc, par conséquent, j'ai dû exister dans 2 maisons de repos. J'appelais nos parents décédés pour me sortir de là et il n'y avait pas d'issue. Et donc, c'était très, très pénible. Je pleurais, je me disais, mon Dieu, est-ce que je vais un jour sortir de là ? Ici, oui, maintenant, je respire et j'ai des activités, j'ai des amis, j'ai des gens qui me comprennent. Nous rions beaucoup, car l'humour, c'est très important. Et voilà, je m'épanouis, on va dire, ici, et dans cette, à l'aquarelle.
Mais comment ça se passe ici, à l'aquarelle ?
Mais en fait, nous vivons en communauté avec quatre autres personnes et nous faisons des tâches, nous faisons de la cuisine, nous faisons des jeux élaborés, on fait de la marche aussi, on va à la piscine une fois par semaine. Donc nous avons une vie très active.
Alors on peut dire aussi que le projet est innovant dans la mesure où c'est du logement social et donc ça a aussi les avantages du logement social. Les gens ont un loyer qui est adapté à leurs revenus. Et donc c'est particulièrement intéressant pour des personnes cérébralisées qui ont parfois des revenus extrêmement faibles. C'est également un habitat passe énergie et il a aussi cet avantage de rassembler des partenaires d'horizons complètement différents qui a priori n'étaient pas nécessairement destinés à travailler ensemble. Alors au niveau des personnes cérébralisées, ce projet permet de mutualiser les aides humaines, de partager les coûts financiers, de rompre l'isolement et la solitude. Également de mettre leurs compétences en commun pour leur permettre ensemble d'accéder à plus d'autonomie. Alors au niveau du service d'accompagnement plus spécifiquement, donc on a vraiment un soutien de proximité. Les personnes de ce logement sont relativement dépendantes sur le plan cognitif et elles ont besoin d'interventions individuelles ou collectives quotidiennes. Alors on s'occupe d'organiser la vie quotidienne, de faire en sorte qu'ils aient un maintien d'activité, de l'organisation du réseau, du travail avec l'environnement, avec la famille, du vivre ensemble. Et puis alors le travail individuel, un peu comme ça se fait dans la plupart des services d'accompagnement. Mais je vais laisser la parole à mon collègue qui va un petit peu vous expliquer les aides adaptatives qu'on a mis en place depuis le mois de mai 2017.
Bonjour à tous. Alors moi je vais commencer par vous parler un petit peu de tout ce qui est organisation de la vie au quotidien. Donc durant les 6 premiers mois, nous avons assuré un passage quasiment quotidien au niveau de la semaine. On y était présent du lundi au vendredi avec des objectifs notamment de diminuer le stress lié à la perte de tous les repères qu'ils avaient pu se créer lorsqu'ils vivaient encore sur Jean Blou. Aussi tout ce qui est organisation des repas, la planification des repas, vérifier que les personnes mangeaient, etc. Et également nous assurer de tout ce qui est planification au niveau des journées du lendemain. Alors durant le premier mois, nous avons également assuré un passage les week-ends, à savoir le samedi après-midi dans les mêmes objectifs. Alors nous avons également élaboré un horaire de présence de l'équipe sur le collectif dans les objectifs suivants. Les aider à se repérer dans leur nouvel environnement, les aider au niveau de l'organisation des repas, de la planification des repas, mais également les aider dans tout ce qui est réalisation d'une liste de courses. Et dans un premier temps, nous les avons également accompagnés directement dans les magasins pour faire les courses avec eux. Nous avons également assuré une aide au niveau de la planification des semaines, donc pour planifier tout ce qui est activités et rendez-vous, et au niveau de l'entretien du logement et de l'aménagement du nouveau bâtiment. Alors, au niveau des aides adaptatives, il nous a fallu les réfléchir de manière différente de ce à quoi nous étions habitués à faire. C'est-à-dire qu'il a fallu les réfléchir en fonction des difficultés du groupe. Et il faut savoir que dans ce groupe, il y a parfois des difficultés qui sont un petit peu similaires, mais aussi des difficultés qui sont fort différentes les uns des autres. Alors réfléchir les adaptations de cette manière, c'est quelque chose qui nous a pris énormément de temps en équipe, parce que c'est quelque chose, comme je l'ai dit, qui est tout à fait nouveau. L'enjeu, en fait, c'est d'arriver à ce que ce projet tienne la route, et ce, même si l'un ou l'autre des colocataires devrait s'absenter pour une raison quelconque. Alors, je vais un petit peu maintenant vous parler de tout ce qui est courses, repas et planification de la semaine. Alors, les repas, ils sont pris en commun, ils sont préparés en commun, en fonction de trois menus équilibrés qui ont été réalisés collectivement, donc en partenariat avec les bénéficiaires, en fonction de leur goût et de leur choix, sur 3 semaines. Et on a également réalisé un outil qui permet d'autonomiser petit à petit les bénéficiaires dans la réalisation d'une liste de courses. Alors cet outil, il a été réalisé comme suit. Donc il y a un neuropsychologue de notre équipe qui, accompagné d'une éducatrice, se rendait chaque lundi matin au sein du logement et qui mettait les bénéficiaires en situation d'élaboration d'une liste de courses. Les difficultés observées, donc ils ont pu observer sur le terrain, étaient la gestion des stocks, la capacité à acheter des quantités suffisantes pour faire à manger pour 5 personnes. Il y a également des troubles amnésiques et des difficultés attentionnelles qui font qu'ils étaient parfois un petit peu perdus lorsqu'ils réalisaient la liste de courses qui ont été mises en évidence. Alors en fonction de ces difficultés, il y a 3 listes de courses pré-remplies, donc une liste de courses correspondant à un menu repas, qui ont été réalisées. Et l'idée, c'est plutôt que de venir ajouter l'élément manquant, on retire ce qui n'est pas nécessaire car il reste présent dans le frigo. Alors pour pouvoir utiliser au mieux cette liste de courses, qui reste en adaptation continuellement selon les observations que nous continuons à faire sur le terrain, on a commencé par procéder à un entraînement individuel et dans un second temps, on est passé à un entraînement collectif. Et donc aujourd'hui, après 7 mois de travail, nous en sommes arrivés au stade où 2 bénéficiaires du groupe sont capables d'utiliser la liste de courses de façon autonome. Alors, comme je l'ai dit précédemment, nous les avons également accompagnés directement dans les magasins pour réaliser les courses. Ce n'est que depuis fin octobre 2017 qu'il y a un service d'aide familiale qui a pris le relais à ce niveau-là. Concernant la réalisation des repas, un neuropsychologue, toujours de notre équipe, et un éducateur ont construit en partenariat avec les colocataires un outil visant à l'amélioration de l'organisation et de la réalisation des repas. Il prend la forme d'un tableau hebdomadaire qui répond aux questions « qui fait quoi ?»,« quand ?» et « comment je dois le faire ?». Il y a une petite vidéo qui montre ça. Donc on peut le voir sous la vidéo, un résident du projet Aquarelle qui est en train de compléter le tableau avec l'aide d'une éducatrice. Pour le compléter, nous avons recours à des nominettes sur lesquelles sont nominées des tâches bien précises ainsi que les procédures destinées à la préparation d'un repas. Il y a donc une division des tâches. Et alors à côté de chaque tâche, est indiqué le nom de la personne qui va devoir l'accomplir. Alors, lors de leur passage, les intervenants font un travail intensif de renvoi systématique au tableau afin qu'ils puissent l'intégrer comme un véritable outil de leur autonomie quotidienne. Alors, il en va également de même pour l'organisation et la planification des activités de la semaine qui se fait à travers non seulement des agendas personnels des bénéficiaires, mais également à travers un agenda collectif qui prend la forme d'un tableau. Alors une fois le collectif installé, nous avons mis l'accent sur l'importance de maintenir le réseau social que les bénéficiaires avaient pu se créer lorsqu'ils vivaient encore sur Jean Blou. L'idée étant à plus long terme d'installer un réseau similaire sur Otigny et ses environs. Alors actuellement, les bénéficiaires reviennent le mardi matin pour participer à la cafétéria sociale. Participe également le mardi après-midi à une activité jeu de société en partenariat avec une ludothèque de Jean Blou. Et alors il participe également le jeudi après-midi à une activité art plastique dans un centre d'expression et de créativité et les vendredis à une activité théâtre. Alors pour pouvoir les maintenir en activité, il nous a fallu assez rapidement passer par un entraînement au niveau des déplacements en transport en commun. On ne s'imagine pas à quel point notre société est devenu complexe pour des choses qui semblent pourtant aller de soi. Alors dans un premier temps, il nous a fallu réfléchir au meilleur compromis en termes de coûts, de facilités liées au titre de transport. Une fois que ça a été fait, durant 4 semaines, ce sont nous, éducateurs, neuropsychologues, assistants sociaux, qui avons directement accompagné les bénéficiaires sous les routes du TEC, de la SNCB, afin de les aider à repérer les trajets qu'ils allaient par la suite devoir effectuer sans nous. Une fois que c'était fait, nous sommes passés à un coaching via téléphone, tout en assurant une présence physique au point de passage important, donc les gares et les arrêts de bus notamment. Au bout de 8 semaines, notre travail a porté ses fruits. Ils sont aujourd'hui capables de quitter leur domicile à Otigny et de se rendre à Jean Blou en toute autonomie, à condition qu'il n'y ait pas d'imprévus, car ceux-ci sont généralement générateurs de stress et d'angoisse. Alors je vais maintenant vous parler un petit peu de l'organisation du réseau. Alors celui-ci est constitué de professionnels. Il y a tout d'abord les infirmiers qui dans un premier temps passaient matin et soir, et ce tous les jours de la semaine, donc 7 jours sur 7, et qui aujourd'hui ne passent plus qu'une fois le matin, dans un objectif d'aider au niveau de la toilette, notamment pour la personne à mobilité réduite, de stimuler à la toilette pour les autres, et également pour aider les bénéficiaires et s'assurer qu'ils prennent bien leurs médicaments. Alors il y a également un service d'aide familiale avec lequel nous travaillons. Actuellement, il intervient 3 matinées par semaine. Il intervient depuis fin octobre. Il me semble important de vous préciser que nous avons formé l'équipe aux difficultés liées à la lésion cérébrale. Depuis octobre, elle travaille en doublure avec un éducateur, et ce, deux matinées par semaine, et ont commencé à prendre le relais au niveau de l'entretien des chambres et des courses du collectif. Alors, il y a également une aide ménagère, donc des titres service, qui intervient 6 heures par semaine pour l'entretien des parties communes. Depuis peu, nous avons également instauré un partenariat avec une maison médicale de Louvain-la-Neuve. Il y a la régie de quartier qui nous soutient pour tout ce qui est travaux d'aménagement. Il y a l'ASBL Habitat et Participation qui nous aide à travailler sur le vivre ensemble. Et alors il y a l'IPB qui continue à intervenir pour tout ce qui se rapporte au bâtiment. Il y a également l'agent de quartier qui apporte une attention toute particulière à nos bénéficiaires. Alors outre les professionnels, il y a également le voisinage. Donc très rapidement, nous avons invité les voisins les plus proches à venir boire un verre au sein du bâtiment afin qu'ils soient sensibilisés au public particulier venu s'installer près de chez eux. Et c'était également l'occasion pour eux de poser leurs questions. Ce fut une grande réussite dans la mesure où nos bénéficiaires sont aujourd'hui bien intégrés dans le quartier et où certains voisins sont également considérés comme des véritables relais en cas de nécessité. Alors il y a également les familles. Nous avons organisé une rencontre entre les familles, les bénéficiaires, notre service et l'ASBL Habitat et Participation autour d'un repas que les bénéficiaires avaient spécialement préparé pour l'occasion. L'objectif étant d'avoir un cadre d'échange, de répondre ou de réfléchir à certaines interrogations que les uns et les autres pouvaient se poser. Également, faire en sorte que les familles puissent se rencontrer, apprendre à se connaître et faire le point sur le projet à partir de petits jeux interactifs. Alors, je vais un petit peu vous parler du vivre ensemble maintenant au sein de la maison. Donc, dans un premier temps, nous avons dû mener une réflexion au niveau de l'aménagement du collectif en termes de mobilier, de luminaires et de décoration. Donc de nouveau, là, nous avons directement accompagné les bénéficiaires dans les magasins pour qu'ils puissent faire le repérage eux-mêmes. Alors, nous continuons à l'heure actuelle d'être suivis par l'ASBL Habitat et Participation pour travailler le vivre ensemble au sein du collectif et notamment pour nous accompagner dans tout ce qui est gestion de conflits. Généralement, on fonctionne par séance, par animation, qui ont lieu une fois tous les 15 jours. En début de séance, on fait souvent un petit peu de relaxation et s'ensuit la mise au travail d'une situation conflictuelle que les bénéficiaires ont décidé de travailler avec nous sous forme de jeux de rôle, de discussion, avec beaucoup d'humour et également d'autres petits jeux interactifs. Alors, au travers de cet exercice, ce qui est vraiment intéressant, c'est le fait qu'on peut se rendre compte de choses qu'on ne perçoit pas et qui ne sont pas capables de nous exprimer. Toutes ces réunions sont des préliminaires pour aboutir à la réalisation d'une charte commune de respect mutuel à l'intérieur du collectif.
Voilà, pour conclure, je dirais que ce projet est vraiment une belle aventure, un défi auquel on croit, dans lequel on a investi et on a investi encore énormément, qui vaudrait la peine d'être reproduit, mais qui est aussi extrêmement chronophage et actuellement qui n'est pas subventionné. C'est un projet qui permet à des personnes qui ne peuvent pas vivre seules de quand même pouvoir accéder au milieu ouvert. C'est un projet qui stimule la créativité. Bah, au niveau de l'équipe, on est fort sollicité dans notre créativité. Qui augmente la qualité de vie de chacune des personnes qui y vit. Qui permet aussi de lutter contre l'isolement et la précarité. Et qui permet aussi à toutes ces personnes de s'intégrer dans une dynamique de quartier. Voilà, je vous remercie pour votre attention.
Merci Vinciane, merci Benoît de votre intervention. On va prendre deux questions de la salle pour essayer de rester dans le timing.
Merci pour votre exposé, pour tout votre dynamisme en tout cas. Si vous pouviez rêver, si vous rêviez, qu'est-ce que vous souhaiteriez encore améliorer en termes de ressources dans la région de d'Otigny, là où vous êtes, pour votre beau projet?
Je ne sais pas si c'est du rêve, parce que je crois qu'on finira par y arriver, mais c'est de mettre en place tout un dispositif tenant compte de tout ce qui donne du sens, de lien social, donc trouver des partenaires dans l'environnement socio-culturel, sportif, dans la vie, quoi, pour nous aider à dynamiser ce projet et à ce que les personnes puissent donner un sens. Alors ça peut être du bénévolat, ça peut être n'importe quoi. Donc là, on doit encore explorer un petit peu le territoire de la région Otigny-Louvain-la-Neuve avec nos bénéficiaires.
C'est pas une question, c'est une remarque. Et indépendamment du projet que mes collègues ont mené, c'est vrai que la problématique de l'insertion sociale, c'est aussi la problématique du logement social. Alors ces logements sociaux sont quand même décentrés par rapport à la cité. Et il faut savoir que dans cette cité sociale en question, il n'y a pas de commerce. Il y a peut-être un bus qui passe, je ne sais pas trop, oui, de temps en temps, il passe de temps en temps. Et donc ça aussi c'est un problème. Alors bon, on n'a pas eu le choix puisque ça se faisait dans le cadre de cette cité sociale. Mais ça c'est vrai que c'est une problématique en termes d'intégration pour eux et pour les autres habitants. C'est une politique plus générale sur l'habitat social. Enfin voilà, c'était juste une remarque que je voulais faire parce que ça augmente les difficultés pour nos bénéficiaires. Ça c'est clair. Ils n'ont pas de voiture, etc., etc.
Alors je ne poserai pas de questions. Tu n'as pas posé de questions, je ferai juste une remarque. Ce matin, on a abordé la question de la CIF. Et il me semble que quand on travaille sur un projet très individualisé et pertinent, il est aussi intéressant de travailler système et politique. Ça a été notre réflexion hier et j'ai essayé de l'aborder ce matin. Et il faut profiter de la présence des politiques, effectivement, pour penser des politiques sociales qui s'appuient sur des choses aussi basiques et triviales que les transports en commun, pour ne pas faire de ghetto à l'extérieur des cités. Voilà, donc c'est pas une question, c'est une remarque. Et la CIF, cette classification internationale, n'est qu'une classification, mais elle nous permet de penser une réalité et d'en voir les failles. Et là, Dominique, tu viens de parler d'une faille de cette organisation. Voilà.